L'extermination d'un peuple par Frédéric Maclair. Sous cette rubrique, quelques périodiques ont signalé la destruction systématique des Arméniens de Turquie, l'appel à la pitié et à l'intervention des nations qui auraient pu et dû protéger d'innocentes victimes contre des brutes déchaînées n'a pas produit l'effet qu'on aurait été en droit d'attendre. Depuis si longtemps que l'on parle de massacre d'Arméniens, depuis que l'ex-sultan Abdulhamid a pour son propre compte fait tuer un demi-million de ses sujets arméniens, il semble que les nations européennes se soient accoutumées à ces appels déchirants qui nous viennent d'Orient et que ces tueries humaines constituent pour ainsi dire un état quasi normal dont on a presque pris son parti. Et puis, les États alliés ont actuellement une tâche suffisamment lourde à accomplir pour qu'ils n'aient même pas le loisir d'intervenir en faveur des victimes de la barbarie ottomane. Il est d'autres peuples européens qui n'auraient qu'un mot à dire pour que ce cruel état de choses prenne fin immédiatement. Ce mot, non seulement ils ne le diront pas, mais par la plume d'un comte Reventlow, ils proclament le droit et le devoir des autorités turques de prendre des mesures vigoureuses contre des éléments arméniens indignes de confiance, avides de sang et rebelles. Il est enfin, parmi les neutres, un état suffisamment puissant pour parler haut et ferme aux bandits qui tiennent entre leurs mains la destinée de l'Empire ottoman. Qu'a fait cet état jusqu'à présent? S'indigner, éprouver une vive émotion, rédiger une note, alors qu'il suffisait d'envoyer un croiseur chargé de faire respecter les sujets et ressortissants américains sur territoire turc. Les Turcs, comme tous les lâches, n'auraient pas insisté devant la bouche des canons venus pour assurer la sécurité des chrétiens d'Orient. Et dans ce drame gigantesque qui se déroule à nos yeux, il nous est particulièrement agréable de relever que parmi les victimes arméniennes destinées aux tortures et vouées à la mort certaine, 4200 ont pu échapper aux affres des supplices et vivent maintenant tranquilles en Égypte grâce à la générosité et au dévouement de 3 bâtiments français. Dans ces heures d'angoisse les plus poignantes, la France est encore portée secours aux faibles et aux opprimés. Dans cette ruée des peuples les uns contre les autres, où la soif de la mort, le besoin de la destruction, la passion de l'anéantissement sont devenus une règle, on est frappé de remarquer une recrudescence de massacres, d'assassinats, de meurtres, comme si la mort n'accomplissait pas suffisamment son œuvre par la disparition de ceux à qui incombe le devoir de lutter, l'honneur de vaincre ou de mourir. Et l'on se demande quelle peut bien être la cause de cette recrudescence du fanatisme turc à l'égard des Arméniens. La raison en est facile à trouver. Elle s'explique par l'attitude même des Arméniens. Elle est également à chercher dans le caractère propre du Turc. Dès que la guerre éclata en août 1914, les Arméniens, n'écoutant que leur conscience, se rangèrent résolument du côté des Alliés. Des volontaires s'enrôlèrent sous le drapeau français, tandis que d'autres gagnaient les rangs russes. C'était plus qu'il n'en fallait pour s'attirer la haine du Turc. Si les Arméniens avaient résisté à la Russie, s'ils avaient embrassé la cause des Austro-Allemands, les événements, à coup sûr, n'auraient pas pris la tournure que l'on sait. Parce qu'ils ont sympathisé avec les soldats du droit et de la liberté, parce qu'ils n'ont pas même cherché à dissimuler leur sympathie, les Arméniens ont payé et paient durement encore leurs gestes de noblesse et de générosité. Et c'est pourquoi le Turc redouble de cruauté et raffine les supplices à leur égard. Quel est donc le tréfonds de la mentalité turque ? Les Turcs ne peuvent rien faire par eux-mêmes, ils sont restés un peuple nomade, malgré leur séjour plusieurs fois séculaire dans les villes. On chercherait vainement à nommer une seule cité importante qui ait été construite par eux. Ils font travailler les autres, ils leur laissent même au début une certaine latitude. Puis, lorsque la prospérité commence à couronner l'effort du travailleur, lorsque le Turc estime que le djihad risque de devenir un danger pour lui, il fomente une révolte et le massacre des révoltés s'ensuit fatalement. C'est en vertu de ce principe, de cet esprit d'organisation, que les massacres n'ont jamais eu lieu aux mêmes endroits. On procède par coupes réglées, on n'abat pas en une fois tous les arbres de la forêt, on y met de la méthode, mais au bout d'un temps fixé, les arbres auront tous été sûrement abattus. Cette façon de procéder est d'une application plutôt difficile dans des centres importants comme Constantinople ou Smyrne. C'est la tactique courante à l'intérieur du pays. À aucun moment de son existence, le peuple arménien n'a été à la charge du conquérant. il a toujours subvenu aux besoins de son culte, de ses écoles, de ses hôpitaux et de ses autres institutions de bienfaisance, et ceci malgré les impôts réguliers et surtout irréguliers qu'il payait ponctuellement et qui l'accablaient progressivement. Le gouvernement turc n'a jamais dépensé un seul para pour les Arméniens. Le contraire a fréquemment lieu, et il n'est pas rare de constater dans les grands centres où il y a des hôpitaux arméniens, israélites et turcs, que les Turcs vont se faire soigner gratuitement dans les hôpitaux arméniens, qui sont exclusivement entretenus par les deniers arméniens. Une autre preuve palpable de l'incapacité turque est que dans les centres turcs, il n'y a pas un seul exportateur turc qui traite directement des affaires avec l'Europe. Les Turcs se contentent de trafiquer avec les commerçants de l'intérieur. Ils sont littéralement incapables de faire le grand commerce, à telle enseigne que les négociants turcs de l'intérieur envoient leurs marchandises en commission chez des Arméniens ou des Grecs. On a répété à satiété que les Turcs, étant fatalistes et ne possédant aucune éducation, il leur était impossible de s'européaniser. Il n'y aurait là que demi-mal s'ils rachetaient par d'autres qualités leur incapacité radicale, leur impuissance complète de conception. Ce n'est pas le cas. Leur cerveau est engourdi par ces deux facteurs, le fatalisme et le manque d'éducation. Ils ont la mentalité de leurs ancêtres, et depuis 6 siècles qu'ils infestent l'Europe et l'Asie antérieure, ils n'ont fait aucun effort pour marcher résolument dans la voie de la civilisation et du progrès. Ils pillent, ils tuent, ils massacrent, ils violent comme l'ont fait leurs pères. Ils se trouvent bien de cet état de choses, ils s'y maintiennent. Ils croient avoir d'autant plus de raisons de s'y maintenir qu'ils sont ouvertement approuvés par leurs alliés, et ils ne voient pas, les malheureux, que leur incapacité même est un des motifs pour lesquels leurs amis allemands les encouragent à faire disparaître les Arméniens. Ceux-ci sont, avec les Grecs et d'autres populations autochtones, l'élément travailleur, nourricier, producteur de l'Empire ottoman. Une fois cet élément anéanti, une fois le commerce, la banque, l'industrie entre les seules mains des Turcs, ceux-ci même, en raison de leur impuissance radicale, feront appel, si l'on peut s'exprimer ainsi, à leurs amis qui entrevoient déjà la prise de possession de ce qui aura été une fois l'Empire ottoman. Si peu renseignés que nous puissions être sur les événements qui se déroulent en Anatolie, nous savons que des consuls allemands ne se cachent pas pour inciter les Kurdes et les Turcs au massacre des Arméniens. Leurs noms ont été publiés. Nous savons, pour ne citer qu'un exemple typique entre mille, qu'à Trébizonde, dont la population se composait de 15 000 Arméniens, de 20 000 Grecs, de 35 000 Turcs, en chiffres ronds, il ne reste plus un seul Arménien vivant. Ils ont tous été massacrés, et nous savons comment les choses se passèrent. Les autorités turques rassemblèrent d'abord tous les Arméniens, sujets russes. Sous le prétexte de les expulser, on les fit monter dans des embarcations qui prirent immédiatement la mer. Quelques heures après, ces mêmes embarcations rentraient au port, délestées de leurs passagers arméniens. Ces mêmes autorités turques ordonnèrent à tous les Arméniens habitant les villages environnants de se rendre à Trébizonde, faute de quoi ils seraient mis à mort sur le champ. Une fois réunis en ville, on sépara les jeunes gens d'avec les femmes et les vieillards. Sous prétexte d'expulsion, on en embarqua une partie qui fut coulée en pleine mer, tandis que les autres étaient acheminés vers l'intérieur du pays et massacrés sans pitié en cours de route. Puis on sépara des femmes les enfants de 3 à 13 ans, que l'on parqua dans le collège des religieux français précédemment expulsés. Les Turcs vinrent au collège, choisirent les plus jolis garçons et les plus belles fillettes. Le reste fut conduit hors de ville et disparut mystérieusement. Puis vint le tour des femmes. Celles qui ne furent pas choisies pour enrichir les harems turcs furent emmenées hors de la ville et impitoyables massacrées ou noyées après avoir subi les derniers supplices. Au lendemain de cette expulsion, le consul d'Amérique, faisant une promenade à cheval dans les environs de la ville, vit de ses propres yeux la rivière charriée des cadavres enlacés de femmes et de tout petits enfants en quantité innombrable. Parmi les jeunes filles parquées dans le collège français, l'une d'elles fut assez heureuse pour se réfugier au grenier. Elle attendit la nuit, et à la faveur de l'obscurité régnante, elle se sauva au consulat d'Italie. Le consul reçut Mademoiselle Karagezian, l'emmena avec lui à Constantinople, puis au Pirée, l'habilla comme sa bonne, lui fit établir un passeport italien et la dirigea sur Odessa où l'infortunée jeune fille retrouva sa sœur, Madame Boyadjian. C'est par cette seule rescapée que l'on connut les atrocités du massacre criminel de Trébizonde, perpétré en juin-juillet 1915. Nous savons par une lettre que nous avons sous les yeux en traçant ces lignes qu'une seule Arménienne de Trébizonde ne fut pas massacrée. Sur le point d'accoucher, Madame Tamadjian était à l'hôpital. Elle mit au monde un enfant et immédiatement la délivrance opérée, on la fiança d'office à un musulman de la ville. C'est sur une population de 15 000 Arméniens la seule personne qui soit restée à Trébizonde. Mais elle n'est plus arménienne et elle ne doit la vie qu'à l'abjuration qu'on lui imposa. La tactique des autorités turques en faisant sortir de la ville les Arméniens pour les massacrer plus à l'aise était avant tout d'éviter que leurs victimes puissent se réfugier chez des musulmans compatissants. En haute mer ou à l'intérieur des terres, l'assassinat pourrait se perpétrer plus aisément, sans avoir à redouter la pitié de témoins gênants. En exterminant les Arméniens, les Turcs faisaient une bonne affaire, et l'on estime que pour la seule ville de Trébizonde, les pertes nettes arméniennes peuvent être évaluées à 100 millions de francs, tant en propriété mobilière qu'immobilière. Tandis qu'en 1896, on se contentait de ruiner les Arméniens et de s'emparer de leur fortune une fois la faillite déclarée, témoin le cas de M. Aznavourian, dont le commerce de tissus fut détruit, puis revendu pour une bouchée de pain au Turc Nemlizadeh. En 1915, on les extermine purement et simplement pour s'emparer de leur richesse. Un des plus fortunés arméniens de Trébizonde, M. Arabian, se voyant sous le coup d'une expulsion, alla trouver le gouverneur de la ville et lui proposa de donner tous ses biens, meubles et immeubles, à qui de droit, pourvu qu'on lui garantît la vie sauve. Le gouverneur lui rit au nez et lui répondit « Mais tout cela nous appartient déjà. » Et il le condamna à l'élargissement. On sait ce que signifie, en turc actuel, une condamnation à l'exil. Ce qui se passa à Trébizonde eut lieu dans tous les grands centres ottomans. Comptant de fortes colonies arméniennes, et l'on estime à plus d'un million le nombre des victimes exécutées au nom de l'union et du progrès du gouvernement jeune turc, l'allié des Allemands, des Austro-Hongrois et des Bulgares. Formés aux disciplines du Sultan Rouge, les élèves ont de beaucoup dépassé le maître. Le sang de tant de victimes innocentes crie vengeance, et le nombre des morts pèsera pour beaucoup lorsque l'heure de la victoire aura enfin sonné et qu'il conviendra de refaire une humanité affranchie du militarisme outrecuidant et délivré à jamais du cauchemar turc. Frédéric Maclair, professeur d'arménien à l'École des langues orientales vivantes.